Ce matin, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui est très sérieux. Pourquoi ? Eh bien parce que l'apôtre Paul a prophétisé que dans les derniers jours, ça serait un véritable problème. À savoir, on va le lire, pour ceux qui peut-être découvrent l'Évangile, qu'il y aurait l'apparence de la piété dans l'Église. C'est dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, il parle des derniers temps, ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre. Personne n'a besoin d'un cours spécial pour qu'on lui explique que nous vivons des temps difficiles. Jésus l'a dit, cela nous permet en même temps de relativiser et de nous permettre d'être en paix, parce que ces choses ont été écrites pour que nous ne paniquions pas. Jésus l'a dit, que votre cœur ne se trouble pas, il faut que ces choses arrivent, mais voilà, pour vous, restez dans la paix. Vous savez combien Jésus nous a demandé de rester dans la paix. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. » C'est bien de s'arrêter, vous savez, sur certains mots. Des fois, on lit vite pour passer presque à la prédication, et c'est une erreur. C'est un grand problème. Que ça soit dans le monde, c'est normal. Mais dans l'Église, ce sont des comportements qu'il faut vaincre. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut chercher toujours à gagner des âmes. Mais également, il nous est demandé de veiller à ne pas être infecté par ceux qui ont une piété superficielle. Nous sommes dans des temps difficiles. Notre Dieu est tout-puissant, il règne et il règnera éternellement. Il garde son peuple, il protège les siens, il a donné sa parole qui nous garderait jusqu'à la fin, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin, qu'il nous protégerait, qu'il nous aiderait. Les promesses du Seigneur Jésus sont innombrables et certaines, et se réaliseront toutes. Mais certaines choses sont sur notre responsabilité, comme l'exercice de la piété. Alors c'est vrai que dans la Bible, si vous regardez dans le Nouveau Testament, si vous avez une concordance, vous verrez que vous ne trouverez pas beaucoup vous ne trouvez pas souvent le mot « piété ». Mais que vous le vouliez ou non, toute la Bible, tout l'enseignement de la Bible nous enseigne à avoir une véritable piété. Alors, ne pas confondre la piété avec un esprit religieux, légaliste, car cet esprit s'introduit également dans les églises. Des chrétiens sont légalistes. La vraie piété produit la joie du Seigneur. Il n'est pas possible qu'une véritable piété produise un comportement légaliste, moraliste. Ce n'est pas possible. Je méditais ce matin l'épître aux Philippiens, il est en prison. 21 fois, il parle de la joie du Seigneur. 21 fois. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Et j'ai éprouvé beaucoup de joie à cause de vous. Il est emprisonné. Aucune amertume, aucun esprit légaliste, il bénit Dieu et il fait du bien aux autres. La piété ne peut pas être autrement que de faire du bien aux autres. Alors je voudrais partager quelques textes avec vous pour que nous comprenions bien que si d'un côté Dieu vous gardera, vous le croyez ça que Dieu vous gardera, que Dieu pourvoira, du côté de Dieu tout est impeccable. On lui fait entièrement confiance quand on parle de l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'enlèvement de l'Église? Est-ce que vous avez peur que Jésus oublie quelqu'un? Parce qu'il y a du monde quand même. Est-ce que Jésus pourrait se tromper? Tiens, il va oublier un chrétien et il va prendre un païen. Parce que ça fait du monde quand même. Oui ou non? Est-ce que Jésus pourrait se tromper? Pourquoi? Vous lui faites confiance? Entièrement. C'est quand même extraordinaire. L'enlèvement de l'église, c'est quand même un truc formidable. Vous lui faites entièrement confiance parce que ça dépend entièrement de lui. Si Dieu nous disait, bon, dans chaque ville, c'est vous les chrétiens qui allez choisir ceux qui vont être enlevés, je vous avertirai 3 heures à l'avance, il vous faudra rassembler, je vous enverrai les anges, mais c'est quand même vous qui allez choisir ceux qui vont être enlevés. Est-ce que ça vous rassurerait, ça? De devoir choisir les chrétiens. Tiens, oui, lui, il est bien. Il est habillé en costume, il est bien. Ah, lui, il prie à haute voix dans l'église. Ah, lui, il est spirituel. Lui, il ne prie pas, il n'est pas spirituel. Mais bien sûr, laissez-moi prêcher, madame Grandet. Vous savez, l'homme juge, et quand on juge, on n'accomplit pas la loi. Quand on juge, on fait l'œuvre du diable. C'est pas plus compliqué que ça. Et je voudrais ce matin que nous soyons tous convaincus que si nous savons que Jésus, dans ce qu'il a à faire, ne peut absolument pas se tromper, il faut aussi que nous sachions que l'exercice de la piété dépend chacun de notre entière responsabilité. C'est à chacun de s'exercer, c'est écrit dans Timothée, et on peut le lire, juste avant, c'est écrit, dans la première épître, remarquez, voyez, 1 Timothée chapitre 4, je vais vous donner quelques textes sur la piété pour que vous vous appliquiez à avoir une vraie piété. Vous savez, moi je me suis fait piéger par l'esprit religieux. Vous savez, quand on est chrétien, quand on a une responsabilité, on voudrait que toutes les choses marchent comme on voudrait faire les choses à sa manière, et tout ça, c'est religieux, ce n'est pas bon. C'est au Saint-Esprit à prendre l'Église en main et à nous conduire par de véritables convictions. 1 Timothée chapitre 4 verset 8, c'est qu'une une série d'exhortations, les épîtres pastorales. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Je ne sais pas si vous vous soupçonnez la bénédiction qu'il y a là derrière. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par les promesses que Dieu a actuellement pour vous. Pour les promesses que Dieu a actuellement pour vous dans l'avenir. Vous êtes soucieux d'obtenir les promesses de Dieu? Elles sont faites pour vous, il ne les a pas faites pour lui. Si Dieu fait des promesses, c'est pour qu'elles s'accomplissent, et surtout c'est pour qu'elles s'accomplissent chez les chrétiens. Donc, l'exercice de la piété ne peut pas faire autrement que quelqu'un entre dans les promesses que Dieu a pour lui présentement, dans le présent, et les promesses que Dieu a pour vous dans le futur. C'est exactement ce que nous enseigne ce texte. Alors, peut-être un autre texte pour parler quand même de ce souci d'être équilibré. Regardez, dans 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 3, regardez ce qu'il dit. Comment doit être la piété? Par rapport à quoi? 1 Timothée, chapitre 6, verset 1er. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Vous savez, à l'époque, on n'y fait pas attention aujourd'hui. Il y avait, dans les églises, à Corinthe, on vendait des esclaves à l'époque de l'apôtre Paul. Sur le marché, vous ne trouviez pas que du fromage, du pain et des volailles. Sur le marché, vous trouviez des gens à vendre. Je ne sais pas si vous le savez. Et Jésus parle aux esclaves. Je ne sais pas, ça a dû choquer même des chrétiens, ça. Que Paul demande à ceux qui étaient esclaves de se soumettre à leur maître. Je poursuis. Regardant leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Je passe au verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Vous voyez qu'on a vite fait de déraper en ce qui concerne notre attitude devant Dieu. La doctrine, elle est selon la piété. Ça, c'est le cadre dans lequel il faut que nous comprenions les choses. Mais regardez, dans Tite, juste après, alors on vient de lire que la doctrine, elle est selon la piété. Maintenant, regardez la doctrine, elle est selon quoi? Tite, chapitre 1er, verset 1er. C'est important parce qu'on ne peut pas parler que de la piété au niveau personnel. Il faut comprendre sur quoi elle repose. Donc elle repose, on vient de le lire, sur la doctrine. Une piété ne peut pas être en dehors de la doctrine biblique. Ce n'est pas possible. Et là, regardez, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Vous avez vu la responsabilité d'un pasteur, ce qui me concerne ce matin, c'est de développer la foi des chrétiens. Un pasteur, il doit développer la foi. Votre foi grandit-elle? Se développe-t-elle? Etc. Donc, un pasteur va développer la foi des chrétiens en faisant connaître la vérité, mais la vérité, comme on vient de lire, elle est selon la piété. La doctrine est selon la piété, la vérité est selon la piété. Un chrétien, il doit être pieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je le répète parce que je l'ai été légaliste. Je l'ai été dans le souci de bien faire, de vouloir imposer les choses, de vouloir faire les choses comme moi. J'avais interprété les choses, j'avais compris qu'il fallait que ce soit comme ça. Et vous savez, ça, c'est pas l'œuvre de Dieu ça, c'est l'œuvre d'un dirigiste, d'un patron d'église. L'église ne marche pas avec des patrons, l'église elle marche avec des hommes remplis du Saint-Esprit, qui fait que nous nous aimons vraiment les uns les autres, car c'est à l'amour que nous avons que nous sommes des disciples, et pas avec un... De toute façon, l'esprit de jugement, ça empêche tout, ça fait l'œuvre du diable, et ça empêche la bénédiction, croyez-moi. Donc, regardez, on va un peu plus loin, c'est bien, on va prendre presque tous les textes, on n'aura peut-être pas le temps, qui parlent de la piété. Après, je vous expliquerai ce qu'est vraiment la piété. De Pierre, chapitre 3. Dans De Pierre, au chapitre 3, il explique... On le sait, il parle des derniers temps. La deuxième épître ne parle que de ça, des derniers temps. C'est une prophétie sur les derniers temps, la deuxième épître. Et regardez ce que l'apôtre écrit aux chrétiens. De Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumé. Alors j'en profite parce qu'encore quelqu'un m'a dit, mais quelqu'un qui n'était pas là la fois où je l'ai enseigné, quelqu'un m'a dit, mais monsieur Hugo, ces prophéties mayas sur le 21 décembre 2012 où la terre va être détruite, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je tiens à vous rassurer, oui, la terre sera détruite. Mais il faut quand même, avant, qu'il passe au moins 1000 ans du millénium sur la terre. Donc, on n'est pas quand même au 21 décembre 2012. Vous le croyez qu'il y aura un règne de 1000 ans sur la terre? Bon, donc, ne vous inquiétez pas, pour le 21 septembre, ça ne sera pas l'heure. Décembre, nous sommes, ou septembre. Quoique, en septembre, il y a la fête des trompettes. Bon. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Le Seigneur Jésus va revenir, tout va disparaître sur la terre, et il nous demande une chose... Que notre conduite et notre piété soient saintes. C'est important. Voyez, il n'y a pas besoin de... Je ne pense pas qu'il y ait besoin de formation particulière pour vivre dans la piété. Je le crois vraiment, on va le lire au travers d'un texte. Mais regardez dans Hébreux au chapitre 12. Le but, c'est ce qu'on vient de lire, mais c'est aussi celui-ci. Le but, Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est tout un enseignement, n'oubliez pas, c'est la fin de l'épître. Qu'est-ce qui va se passer si je m'y applique? Hébreux 12, verset 28, c'est important parce que ça concerne également le culte. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. On doit rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et quand tout le monde loue Dieu dans son cœur, à mi-voix, à haute voix, quand tout le monde est vrai devant le Seigneur, quand on le fait dans une véritable piété, c'est un culte qui lui est agréable. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et si chacun est vrai devant Dieu, lorsqu'il vient dans la maison du Seigneur, lorsqu'il vit avec une véritable piété, et lorsqu'il vient avec ce saint respect, eh bien on offre à Dieu un culte qui lui est agréable. Je viens de vous dire juste avant qu'il n'y a pas besoin de formation spéciale, de talent particulier, d'équipement particulier également. Non. Regardez dans 2 Pierre. Notez ces textes. C'est ce que j'ai fait pour préparer cette exhortation, parce que je vois bien que des chrétiens ont l'apparence de la piété. Je le vois pas. Lorsque je discute avec eux, on voit bien que certains n'ont que l'apparence de la piété dans leurs propos, leur vulgarité. Hier, je lisais le témoignage d'un pasteur qui est parti en vacances. On va venir sur deux pierres. Je lisais le témoignage d'un pasteur. Écoutez bien, mais ça, c'est déjà arrivé. Vous l'avez peut-être, hélas, vous aussi vécu. Ce pasteur, il est parti en vacances au bord de la mer. Et le matin, il est parti au bord de la mer se promener. Puis tout d'un coup, il a rencontré quelqu'un, un gars qui, pareil, se promenait sur le bord de la plage. Il dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous, tout ça ?» Voilà, ben je me promène. Et le gars lui dit à ce pasteur, il savait pas qu'il était pasteur, ni chrétien bien sûr, il lui dit « Vous avez vu cette île, comme elle est chouette, c'est chouette cet endroit, vous avez vu combien les filles ont l'air faciles lorsqu'on va dans les plages, lorsqu'on va dans les bars, combien les filles ont l'air faciles à découvrir, et que ça, etc. » Je sais plus exactement les mots, mais c'était ça que ça voulait dire. Et donc le pasteur dit, mais moi, vous savez, moi je suis chrétien, je suis marié, je respecte ma femme. Mais il dit, mais moi aussi je suis chrétien, et je vais dans telle église, et je sers Dieu, je suis dans telle église, il y a tel pasteur. Vous avez compris. Alors, et je suis hélas persuadé que ce n'est pas passé qu'une fois. Et je crois que c'est là que nous comprenons. On n'est pas là pour juger le gars. Il faut l'aider à se convertir. Je discutais avec une chrétienne qui me disait cette semaine, mais je viens de me rendre compte que mon mari n'était pas converti. Elle s'était mariée avec un chrétien. Alors bien sûr, il y a tout un travail pour amener la personne à cette bénédiction. Mais c'est un des signes. C'est une prophétie. Les gens auront l'apparence de la piété. Cet exemple que je viens de citer est vraiment flagrant. Alors, on va voir sur quoi repose la piété. Mais Dieu nous a tout donné. Regardez, dans 2 Pierre au chapitre 1er, c'est important, frères et sœurs. Vous devez savoir si vous avez une véritable piété. Je ne parle pas d'un esprit légaliste, parce que ça, on confond parfois. Moi, on va dire, vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle est droite? Non, c'est pas de la droiture. Lorsqu'on juge les gens, lorsqu'on est méchant avec les gens, ce n'est pas de la piété. C'est de la méchanceté. Et je tiens à le dire. Parce que plusieurs... Moi, je me suis fait piéger. Pour la gloire de Dieu, pour servir Dieu. Et je ne veux pas tomber dans ce piège. Sa divine puissance, de Pierre 1, verset 3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas besoin d'une formation particulière, d'un talent particulier. Si vous voulez être le responsable de la chorale, il vous faut un talent. Il vous faut connaître la musique, il vous faut avoir certaines idées, etc. Le responsable de la chorale, c'est incontournable, doit avoir un talent, des qualités, une formation, c'est imparable. Mais en ce qui concerne la piété, ça n'a absolument rien à voir avec les talents. La piété, c'est une affaire personnelle. Dieu nous a, on l'a lu, Dieu nous a tout donné. Alors, on peut lire la suite puisqu'il nous est reparlé de la piété. Verset 4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous voyez, ça revient à ce que disait Paul à Timothée, que quand il y a de la piété, les promesses, elles sont pas loin. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça aussi, vous voyez, il n'y a pas que les promesses. Quelqu'un qui est dans la piété, il fuit la corruption qui est dans le monde. Verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est quoi la vertu? C'est une disposition de cœur qui nous pousse vers le bien. Voilà, la vertu, on n'en parle pas souvent, la vertu. Mais c'est une disposition. Je suis poussé à faire le bien. Ça ne vous arrive pas d'avoir envie de faire du bien? Ça vous arrive? Oui, j'espère. Voilà, c'est ça la vertu. Joindre à votre foi la vertu, parce que la foi sans la vertu, c'est très religieux aussi. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, c'est-à-dire que celui, le chrétien qui ne fait pas d'efforts pour développer ses vertus, cette piété, etc., celui qui ne fait pas d'efforts pour développer ces choses est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous avez vu, appliquez-vous à affermir votre vocation. Nous en avons parlé jeudi, par exemple, quand il est écrit « C'est à cela que vous avez été appelés », c'est notre vocation. La vocation, c'est « je réponds à ce que Dieu me demande ». Dieu dit que je suis appelé à bénir, et bien je bénis. Vous bénissez votre église, on en a parlé jeudi après-midi. Vous bénissez votre nation, vous bénissez votre famille, vous aimez votre famille, vous aimez votre église, vous aimez votre conjoint. Je suis appelé à bénir. La piété ne peut pas m'amener à autre chose que de faire avec joie ce que le Seigneur me demande. J'y reviens, ce n'est pas un talent, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un domaine particulier. Tout nous a été donné. Et quand on... il n'y a qu'à se servir. Seigneur, je vais faire ces efforts. Je vais m'appliquer. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas ne pas nous éclairer. Lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on a dit quelque chose qui n'allait pas, on va de suite être repris par le Saint-Esprit. Oui ou non? Bien sûr, si je suis vulgaire, si je suis grossier, si j'ai ce comportement de ce chrétien sur la plage qui est intéressé par le monde et pas par Dieu, si je n'y fais plus attention, je peux en déduire que comme pour Samson, lorsqu'il a exagéré, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui et il ne le savait pas. Quand on en arrive là, on peut en déduire cela. Le mot piété, j'ai cherché la définition du mot quand même. C'est bien parfois de donner la définition d'un mot. Vénération, faite d'affection et de respect envers Dieu et les parents. La définition du mot piété signifie des vénérations, faite d'affection et de respect envers Dieu et les parents. Parce que je crois que quand on honore Dieu, on honore aussi ses parents. Oui ou non? Vous vous rappelez les pharisiens qui avaient réussi à trouver le coup pour pas honorer leurs parents? La fameuse loi du corban, vous connaissez? Hein? Vous dites, l'argent qui devrait être utilisé pour assister les parents, si on le donne au temple, on est dégagé de s'occuper des parents. Vous voyez ça? Et ça, c'était la loi que les pharisiens avaient introduit dans leur système. Et faisons attention, nous aussi, à ne pas introduire certaines choses pour remplacer la piété. Le légalisme, ça peut remplacer la piété. Parce que quand on est légaliste, on croit qu'on est spirituel. Et croyez-moi, c'est le fruit. C'est le fruit. Je crois que l'honnêteté, on devrait demander aux gens qui sont à côté de nous, proches de nous, est-ce que vraiment je rends un bon témoignage? Vous ne croyez pas que... Bon, c'est sûr qu'il faut être prêt à entendre. Hein? Oui ou non? Sérieusement, est-ce qu'on est prêt à entendre quelqu'un qui nous aime nous dire non, ton témoignage est minable? Est-ce qu'on est prêt? Je continue. Et c'est important. Je vous assure, mes frères, c'est important. On est sous le regard de Dieu. Vous savez, quand Nathan a dit à David, tuez cet homme-là, David aurait pu le tuer. Vous savez que David pouvait le faire tuer dans la minute qui suivait. Il a dit, j'ai péché. Et je suis persuadé que Dieu regarde au respect que l'on a envers lui, mais aussi au respect qu'on a de son prochain. La piété, c'est respecter Dieu et respecter ses parents, respecter sa famille, respecter les gens. C'est beaucoup plus important. En tous les cas, une autre définition, c'est la dévotion en action. Voilà. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est dévoué, qui veut faire la volonté de Dieu. C'est important. Ce n'est pas une question d'activité, ça j'y tiens parce que je me suis fait piéger et beaucoup de chrétiens se font piéger. C'est un amour profond qui nous pousse à faire quelque chose pour lui. Vous comprenez? Ce n'est pas je fais quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose, parce que M. Gaud nous dit depuis plusieurs mois, il faut absolument faire quelque chose, donc je vais faire quelque chose. C'est pas ça la piété. La piété, c'est un amour profond. Ça vous pousse à le faire. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Vous comprenez? La foi, sans les œuvres, elle est morte. Ça vient du cœur. Ça fait que ça vous fatigue pas de le faire. Même si à la fatigue de la journée, quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous pouvez pas dire, ouais, j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire là. Moi, je l'ai eu dit. Je l'ai eu dit, ça. Et je sais comment je suis tombé. Parce que je faisais les choses pour les faire, parce qu'il fallait les faire. En plus, quand on est pasteur, dites-vous bien qu'on est obligé de le faire. Soyons honnêtes devant Dieu, et on est payé pour. Et voyez, on peut se faire piéger encore plus. Non. Quand on fait les choses que Dieu nous demande, je crois que c'est un honneur de faire les choses que Dieu nous demande, quelles qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Alors, pour expliquer ce qu'est la piété, parce que maintenant, c'est en fin de compte le cœur de la prédication, le plus important, mais qu'est-ce que c'est la piété? Je vous ai parlé de ce garçon, de ce chrétien sur la plage, qui bien sûr n'avait aucune piété, et avait l'apparence de la piété, puisqu'il fréquentait une église évangélique. La piété repose toujours sur la crainte de Dieu. Toujours. Une véritable piété a un profond respect pour les choses de Dieu. C'est comme ça que Dieu peut nous utiliser. Vous rappelez Noé, il a été saisi d'une crainte respectueuse. Et n'oubliez pas qu'il était seul sur la terre, seul, à craindre Dieu. Sa famille a suivi. Il est dit que Noé marchait avec Dieu en son temps. La crainte de Dieu, c'est pas dire, ah, moi, si j'avais un autre mari, je suis sûr que je marcherais mieux avec Dieu. Ah, si j'avais une épouse consacrée, je suis sûr que je marcherais avec Dieu. Ah, si j'avais un meilleur travail, si j'avais une meilleure église, si j'avais un meilleur pasteur, si j'avais de meilleures conditions, si j'avais vécu au Moyen-Âge ou du temps de Jésus. Écoutez, on marche avec Dieu dans son temps. Et si on ne marche pas avec Dieu dans le temps que l'on est, on ne marcherait pas avec Dieu dans d'autres circonstances ou dans d'autres configurations. Je crois que Dieu savait quand est-ce qu'on devait venir sur la terre. Vous croyez que Dieu savait quand est-ce qu'on devait venir? Chacun, vous croyez que vous êtes né par hasard, pas vous êtes né telle date, vous auriez dû dire, ah, Dieu va vous dire quand vous serez devant lui, ah ben c'est vrai, t'avais raison, t'aurais dû naître au Moyen-Âge, ça aurait été mieux pour toi, ça t'aime pas debout. Dieu sait très bien quand est-ce qu'on doit venir sur la terre et on marche avec Dieu en son temps. Noé a marché avec Dieu en son temps, la terre était pleine de violence. Et la méchanceté était grande sur la terre et Dieu a jugé la terre et Noé est resté dans la grâce de Dieu. Il a été saisi d'une crainte respectueuse et heureusement parce que Dieu a pu l'utiliser pour construire quelque chose. Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous utilisera pour construire. Si vous êtes légaliste, le diable vous utilisera pour démolir. C'est comme ça que ça marche, il faut le dire en deux phrases, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. La crainte de Dieu, ce profond respect, pas la peur, comme quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu les cherche, ils savaient très bien où ils étaient. Où es-tu? Première question posée dans la Bible. Et Adam répond, j'ai eu peur et je me suis caché. Quand on a la crainte de Dieu, on ne se cache pas de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on va le voir, il y a vraiment un désir de s'approcher de lui. La crainte de Dieu ne vous éloignera pas de lui. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un me disait dernièrement, oh, ça ne va pas en ce moment, alors je ne préfère pas m'approcher de Dieu parce que je ne suis pas assez saint. Je dis, tiens donc, qui c'est qui défend la sainteté de Dieu? Moi, je ne crois pas que ça venait de Dieu, ça, vous voyez. Parce que je crois que quel que soit notre péché, notre misère, on peut s'approcher de lui. Et c'était le diable qui défendait la sainteté de Dieu. Moi, je vous le dis, quand quelqu'un dit « j'attends d'être très saint pour m'approcher de Dieu », je ne crois pas que ça vienne du Saint-Esprit, ça, voyez. Comme quoi, voyons, on a vite fait de se tromper par de faux raisonnements. La crainte de Dieu, quand Paul parle des méchants, c'est-à-dire des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu, il dit « la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux ». Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il a la haine du mal. Job, c'est Dieu qui le dit. Job craignait Dieu et se détournait du mal. J'aimerais lire avec vous le psaume 36 pour vous expliquer ce qu'est vraiment la piété. Des fois, les chrétiens me disent, mais non, je n'arrive pas à me décrocher de ça. J'arrive pas. J'ai vu plusieurs chrétiens qui étaient accros à des vidéos porno. Et ça doit être quelque chose de terrible. Je n'arrive pas. Et bien parce qu'ils ont mal commencé, certainement. Regardez dans le psaume 36, c'est David qui parle du cœur des méchants. C'est important que nous le comprenions. Qu'est-ce que c'est la piété? Eh bien, c'est l'inverse de ce qu'on va lire. Et psaume 36, verset 2. « La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il fait exactement l'inverse. Il va repousser le mal. Moi, je vous dis, quand je suis devant mon ordinateur ou devant ma télé, j'ai tout le temps deux versets devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Rien. Et je crois que ça nous protège. Ça nous permet, ou ce verset, éloigne-toi du mal. Celui qui craint Dieu, il se détourne du mal. Et je crois que c'est une décision. Quand Paul dit « exerce-toi à la piété », tiens donc, il fait allusion aux athlètes, justement, qui s'entraînent. Je ne sais pas si vous avez entendu, peut-être lors des informations, le témoignage de certains médaillés olympiques, les efforts qu'ils font pour en arriver là. C'est un truc de dingue, ce qu'ils sont capables de faire pendant 4 ans, tous les jours, pendant des heures, pour en arriver là. Ils s'exercent, ils se font violence, ils sont déterminés. Dieu ne nous demande pas d'être des abrutis de travail. Mais il y a, je crois, un état d'esprit. Celui qui craint Dieu, il se détourne du mal. Exerce-toi à la piété. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. On l'a lu ou on ne l'a pas lu? Pour vivre selon la piété. Et si vous dites, moi j'y arrive pas, c'est que vous avez besoin de prendre une victoire, c'est quelque chose de sérieux, appliquez-vous-y, faites tous vos efforts et demandez qu'on vous soutienne dans la prière. On n'a pas pris des victoires dans le passé, sur un point, sur un domaine, vous avez pas, peut-être que vous n'osez pas demander à quelqu'un, mais prie pour moi, à cause de ceci, à cause de cela, je veux prendre la victoire. N'ayez pas honte de demander à quelqu'un qui vous soutienne, à moins que ce soit une commère et qui va colporter bien sûr tout ça. Mais si vous savez à qui vous pouvez demander de vous aider, oui ou non? Ah oui? Vous savez à qui vous pouvez demander. Deuxièmement, la piété est bien sûr basée, ça c'était inévitable, sur l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a une vraie piété, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il aime Dieu. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Mais il répond à un amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas sentimental. L'amour pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de sentimental. Mes frères et sœurs, l'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui est profond. Et c'est surtout relié, vous l'entendez dans les prières, une sœur qui disait ce matin, tiens, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Vous avez entendu la sœur qui dit ça? C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui en vérité aime Dieu parce qu'il a été bouleversé par tout ce qui s'est passé au calvaire. L'amour de Dieu, c'est pas un amour senti. Ouais, j'aime Dieu, mais fait bon, j'aime ça aussi, ou j'aime telle activité, j'aime me détendre et faire mon jogging. Non, beaucoup de gens parlent de l'amour de Dieu d'une manière sentimentale, émotionnelle, voyez, affective, humaine. Non, l'amour pour Dieu, la piété, c'est un amour avec énormément de respect. D'ailleurs, quand vous voyez les apôtres. Vous voyez, Jean qui a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il fait allusion à ce que Jésus a fait pour lui, pour eux, pour nous, sur le bois de la croix. Regardez un autre texte, par exemple, on peut prendre un texte de Paul, 2 Corinthiens 5. Regardez. Chaque fois que ces hommes de Dieu parlent de l'amour, c'est tout le temps lié à la compréhension de la croix, de l'amour de Jésus manifesté au calvaire. 2 Corinthiens chapitre 5. Vous le vérifierez. Maintenant que je vous l'ai dit, si vous le retenez, vous le vérifierez facilement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. On le voit, c'est tout le temps lié au calvaire. Regardez, 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, quand Paul, je prends ce texte, il y en a des centaines, oui, sûrement, je le dis comme ça. Quand Paul parle de l'amour qu'il a pour Dieu, il le relie toujours à l'amour qui a été manifesté au calvaire. C'est pour ça qu'en fait, en principe, les chrétiens aiment chanter des cantiques sur la croix. Parce que ce n'est pas sentimental, ce n'est pas émotionnel, c'est profond. Dès qu'on chante, voilà, voyez ses mains et ses pieds. Vous avez vu comme ce matin, hein? Voilà, celui qui prend la colère, celui qui a créé la terre, c'est comment la parole déjà? Celui qui a créé la terre? Celui qui a, le Dieu qui a créé la terre, qui prend le clou de la colère. Voilà, dès qu'on chante un cantique sur la croix et qu'il y a cette on est touché. C'est vrai que quand Dieu il a multiplié les pains, c'est un truc extraordinaire. C'est là qu'on voit que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut multiplier la matière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, quand Jésus a multiplié les pains, il a voulu montrer qu'il était le créateur du ciel et de la terre. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que tous ces gens se sont convertis. Mais par contre, quand vous lisez la crucifixion de Jésus et que vous réalisez qu'il est ressuscité et qu'il a versé ce sang, ça produit un amour profond. C'est pas un amour, ouais, j'aime Dieu, ouais. J'aime Dieu, Jésus, c'est mon copain. Non. Ça produit un respect profond. C'est pour ça que c'est important de développer une véritable piété. On pourrait prendre d'autres textes. Le troisième élément qui permet d'avoir une véritable piété, c'est le désir de Dieu. Un véritable chrétien qui va s'exercer à la piété va développer le désir de se retrouver dans la communion avec le Seigneur. Vous avez vu, dans un couple, si vous êtes marié, vous avez vérifié certainement que nous pouvons aimer notre conjoint de plus en plus. Oui ou non? Est-ce que l'amour dans un couple grandit? Moi, je crois que oui. Qu'un homme doit apprendre à aimer sa femme de plus en plus. Il y a peut-être au début, par exemple, je ne sais pas, beaucoup d'attrait physique, mais peut-être de plus en plus, même si cet attrait physique reste, il va y avoir une tendresse qui va grandir, et on pourrait parler de ces choses. Oui ou non? Un homme, quand même, la barre est assez haute, puisque Jésus dit qu'on doit aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc on voit bien qu'on peut aller beaucoup plus loin. Normalement, l'amour pour les gens doit grandir. Plus un chrétien apprend, plus un chrétien développe, il doit aimer de plus en plus son prochain. Est-ce que pour vous, c'est de plus en plus facile d'aimer les gens ou c'est de plus en plus difficile? C'est une bonne question. Est-ce que pour vous, c'est de plus en plus facile d'aimer les autres ou de plus en plus difficile? On continue. Mais moi, je suis persuadé. Sérieusement, que plus l'amour de Christ grandit en nous, plus il nous est facile d'aimer inconditionnellement. On pourrait faire une étude sur le pardon pour l'expliquer, avec tout l'enseignement de Jésus, c'est d'une évidence totale. Et ce désir doit absolument grandir, un désir plein de joie. C'est pour ça que je vous disais que la piété ne peut pas être légaliste. D'ailleurs, c'est Paul qui a dit que la piété, c'est une source de joie et de contentement. La piété ne peut qu'être joyeuse. Regardez l'apôtre Paul dans tout ce qu'il a traversé, il était joyeux d'avoir souffert pour le Seigneur. Et mes frères et sœurs, veillons à cela. Car l'apparence de la piété, c'est pas que dans le laxisme ou comme le témoignage du gars sur la plage. L'apparence de la piété, c'est aussi le légalisme. Le légalisme, vous rappelez le pharisien dans le temple? Et moi, je te loue de ce que je suis pas comme les autres. Moi, je jeûne. Moi, je donne la dîme. Moi, je prie à haute voix. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je ci. Moi, je là. Et en plus, je suis pas comme celui-là, là, qui est un pauvre chrétien. Vous connaissez cette affaire. Et Jésus a dit, il se persuadait qu'il était juste et il ne faisait aucun cas des autres. Là. L'apparence de la piété n'est pas que dans le chrétien qui vit dans le péché. C'est aussi, c'est prouvé, par le légalisme. La piété, c'est une joie de servir Dieu, de connaître Dieu et de le désirer. Il ne faut pas que ça soit dans le passé. Je vous parlais de la grâce au futur. La piété, il y a des gens, ils sont dans le passé. C'est bien de dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai vécu ça. Il y a 30 ans, on a vécu ça. C'est bien, tant mieux. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois que Dieu peut te donner de faire une expérience de joie, de retrouver la joie que tu as perdue? Est-ce que Dieu peut donner la joie à quelqu'un là maintenant? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un là, dans maintenant? Est-ce que Dieu peut vous guérir de cette aigreur, de cette amertume, de cette dureté? Oui, Je crois que Jésus guérit tous les affligés. Et ce désir prouve qu'il va provoquer, vient d'une véritable piété. Oui, je le répète, la piété ne peut pas être de la morale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La piété, c'est un désir. Quelqu'un qui est bien avec Dieu, je crois qu'il va être bien avec les autres. C'est biblique ce que j'ai dit ? Eh oui. Alors c'est vrai que peut-être bien dans le sang, il y a des gens qui ne nous apprécieront pas, mais je crois qu'on fera du bien aux gens. Vous croyez qu'on peut faire du bien aux gens ? Vous avez envie de faire du bien aux gens ? Alors, veillons les frères et sœurs. Que ceux qui ont tendance à basculer sur le laxisme veillent. Que ceux qui ont tendance à basculer sur le légalisme veillent également. Et posons-nous des véritables questions. Est-ce que je rends un bon témoignage ? Mais je vous dis, c'est que dans votre famille que vous pouvez vraiment le savoir. Moi, je l'ai fait parce que ça m'est souvent arrivé de dire à mes enfants, à ma femme, « Qu'est-ce que tu penses de moi en ce moment ?» Ben merci Seigneur pour l'honnêteté dans les familles. Quand quelqu'un est capable de dire, tu sais, en ce moment, je trouve que tu es tendu. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est ça l'honnêteté. Mais moi, je me suis toujours senti aimé quand ma femme ou mes enfants m'ont fait des reproches. Parce que je crois que ce qu'on a chanté, c'est la vérité. Seigneur, que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Et Seigneur, je ne veux pas terminer ma course aigrie, amère. On le voit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ces rois qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Ça fait pitié vraiment. Pourquoi certains c'est écrit, d'autres c'est pas écrit? On n'a pas à savoir de toute façon. Mais mes frères et sœurs, la piété, elle doit être belle dans l'Église. Elle nous donne, elle nous permet d'offrir à Dieu un culte qui lui est agréable. On a tous cette possibilité de nous exercer à la piété, cet amour profond. Ce désir de nous approcher de Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu dépendent uniquement de notre responsabilité. Exerce-toi à la piété. Vous êtes responsable de votre propre progrès. Même si vous êtes dans une église difficile, même si vous êtes dans une église où ça ne va pas. Cette semaine, j'avais quelqu'un qui me dit, voilà, dans l'église s'est vidée, on est 5 au culte. Et cet homme, il a dit, j'ai décidé de continuer à aimer l'Église, à aimer mon pasteur, à aimer les frères, ceux qui sont restés, à aimer ceux qui sont partis. Je veux développer une véritable piété. Mais ce garçon, Dieu va le bénir. Il a décidé de continuer à aimer. C'est bien la preuve que c'est de notre responsabilité de continuer à dire, oui, je ne me lasserai pas de faire le bien. C'est ça la vertu. C'est ça la vertu. Vous voyez, il y a des mots. Prenez un dictionnaire. Parfois, ça vaut la peine. Moi, hier, vous voyez, je prends ces mots pour ne pas quand même me tromper, même si je les ai déjà étudiés. C'est bien d'y revenir en tant que pasteur. Tu verras, Jérémy, c'est utile de revenir parfois sur la signification de certains mots. Une chose est certaine, mes frères et sœurs. La vraie piété, Dieu l'a bénie. Elle a la promesse de la vie présente. Alors, fermons nos yeux quelques instants. Répondons à cette prédication. Je voudrais tellement que le Saint-Esprit puisse libérer tous ceux qui sont enfermés dans le laxisme, ceux qui ont peut-être que la part, ne vous offusquez, on n'est pas là pour vous juger. Peut-être vous êtes plein de jugements, de craintes, de mauvaises craintes, de culpabilité, de fausses culpabilités et de vraies culpabilités. Est-ce que ça vaut la peine qu'on prie ensemble, sans faire d'appel? Vous croyez que Dieu voit votre cœur? Vous croyez que Dieu voyait le cœur de Anne lorsque dans le temple un jour, elle n'a fait que prier, elle ne faisait que remuer les lèvres. Voilà ce qu'elle faisait. Elle était dans le temple, elle remuait les lèvres. Elle priait, il est dit, dans son cœur. Je voudrais qu'on termine ce culte en priant dans notre cœur. Croyez-moi, Dieu vous entend. Vous pouvez parler dans votre cœur. À Dieu. Quelqu'un me le disait dernièrement, mais est-ce que Dieu n'entend que les prières faites à haute voix? Je dis non, Dieu entend même la voix de nos larmes. Dieu exauce nos soupirs, parce que nos soupirs expriment une souffrance ou un désir. Dieu entend votre cœur maintenant. Il est Dieu. Il a créé l'être humain, il voit ce que vous êtes en train de penser, il voit ce que vous êtes en train de lui dire. Oui, vous ne faites que remuer les lèvres, peut-être que vous les remuez même pas. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous croyez que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je le répète, il n'y a pas besoin de formation. Il y a besoin d'une attitude pleine de respect, pleine d'amour profond, pleine de désir. Ça développera une vraie piété. Vous serez prêt quand Jésus va revenir. Vous serez une source de bénédiction et pas de problème dans l'Église. Vous serez une bénédiction. Vous entendrez Jésus vous dire « Entre, bon et fidèle serviteur ». Voilà ce qui se passera pour tous ceux qui s'exerceront à la piété. Ils seront bénis dans l'éternité et sur la terre, ils connaîtront les promesses présentes et les promesses à venir. Alors prions, prions. Simplement, je vais prier dans votre cœur, priez avec moi, écoutez ma prière, dites à quelque chose au Seigneur, on a chanté, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais c'est clair, vous pouvez là être exaucé, en sortant du culte, voir combien Dieu va vous bénir. Seigneur Jésus, tu nous as laissé ta parole. Vraiment Jésus, fallait-il que tu nous aimes pour nous donner ta parole dans notre langue. Fallait-il vraiment, Seigneur, que ta bonté soit immense, vu comment nous avons été. Ta patience a été notre salut. Et ce matin, oui, nous ne voulons pas terminer la course dans l'apparence de la piété. Dans ces temps difficiles, nous voulons ta grâce et faire nos efforts pour développer cette piété que tu béniras. Merci pour les églises, merci pour le corps de Christ, merci pour les assemblées, merci pour ce pays, merci pour les frères et les sœurs. Seigneur, tu bénis le corps de Christ dans ce pays. Nous voulons bénir ce pays, bénir cette ville, bénir nos familles. Oui, Jésus, je veux m'exercer à la piété, afin d'être utile dans l'église où tu m'as placé. Seigneur, entends les prières des frères et des sœurs qui montent vers toi. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.